Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Vous êtes vacciné,
on n'est pas vacciné.
Vous êtes vacciné,
on n'est pas vacciné.
La chanson de l'été 2021 selon le comédien youtubeur Anthony Joubert. Vous êtes vacciné. Du moins plus de 52 millions de Français ont reçu au moins 2 doses de vaccin contre le Covid-19 au 2 avril. Autrement dit, près de 80% de la population en âge de recevoir ce vaccin qui permet de limiter les formes graves de la maladie. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca ont dominé le marché français, enfin surtout les deux premiers. Et certains retardataires, rétifs aux vaccins étrangers, vont avoir un argument de moins.
Après des problèmes de dosage puis de calendrier, le vaccin Sanofi est prêt. Il doit désormais trouver sa place au milieu de concurrents bien installés, comme par exemple Pfizer.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Le vaccin anti-Covid de Sanofi est prêt, avec plus d'un an de retard. Un échec dont le groupe pharmaceutique français espère tirer les leçons pour mieux rebondir.
Sanofi développe actuellement un vaccin contre la Covid-19 qui s'appuie sur la même technologie que celle utilisée pour l'un de nos vaccins contre la grippe saisonnière. Ce vaccin candidat vise à induire une réponse immunitaire qui permettra au corps humain de lutter contre le virus SARS-CoV-2.
Le vaccin à protéines recombinantes développé par Sanofi avec GlaxoSmithKline et un organisme américain chargé de la R&D dans le domaine biomédical, la BARDA. S'il n'est pas encore disponible dans les pharmacies ou dans les centres de vaccination, il témoigne malgré tout du savoir-faire du groupe en matière de vaccins. Il répond aussi à sa façon aux inquiétudes d'une partie de la population face à la technologie dite de l'ARN messager dont je vous ai déjà parlé dans la story. Sanofi ne tourne pas pour autant le dos à cette technique prometteuse pour la médecine moderne et il compte bien prendre sa revanche à l'avenir. Bonjour Florence Beauchard.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous vous êtes intéressée pour les Échos Week-end à l'esprit de revanche qui anime Sanofi et ses équipes. L'échec temporaire du vaccin pour le Covid, ça a été mal vécu en interne?
Oui, c'est certes. Quand on est numéro 2 mondial des vaccins, on est forcément attendu au tournant sur une telle pandémie. Mais les difficultés du groupe à accoucher rapidement d'un vaccin efficace ont été forcément mal vécues, d'autant que les équipes subissaient aussi de la part de leurs proches des quolibets avant que le sujet ne fasse la une des journaux pendant l'hiver 2021. À défaut de produire rapidement son propre vaccin, Sanofi a mobilisé son outil de production au service de ceux qui avaient été plus rapides, comme Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Il a donc mis à disposition son site historique de Marcy-l'Étoile, à Francfort et un aux États-Unis également. C'est une collaboration inédite dans un secteur qui a été bien accueilli évidemment par une partie des collaborateurs qui souhaitaient apporter leur écho à cette bataille. Mais certains voyaient ceci plutôt comme un signe avant-coureur de déclin. Relégué au sans rang de sous-traitant, ce n'est pas forcément évident pour un big pharma comme Sanofi.
Le groupe avait pourtant mis très tôt deux fers au feu.
Tout à fait. Et dès la fin du premier trimestre 2020, alors que la pandémie se confirme, avec Pfizer, Moderna, GSK ou AstraZeneca, Sanofi dit que, bien sûr, ils se lancent dans la bataille pour trouver un vaccin. À l'époque, l'ARN messager n'a pas encore fait véritablement ses preuves dans les vaccins. Dans une industrie aussi conservatrice que celle des vaccins, c'est pas forcément évident pour les ténors de se lancer dans quelque chose d'aussi incertain alors qu'il faut arriver à quelque chose rapidement. Donc finalement, Sanofi décide de lancer 2 pistes. D'abord, il avait déjà une collaboration avec dans l'ARN messager avec un certain Translate Bio, une boîte fondée en 2016 à Boston. Mais par ailleurs, il se lance avec son grand rival britannique GSK sur un projet de développement à partir d'une protéine recombinante et GSK apportant l'adjuvant, c'est une espèce de dopant dont GSK est un des grands experts.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a cloché?
En fait, Rapidement, Pfizer, BioNTech et Moderna arrivent avec des résultats très encourageants, mais Sanofi, pour la partie ARN messager, c'est plus long. Et donc, même si les résultats sont en mars 2021 sont concluants, il décide qu'il ne peut pas poursuivre, il arrivera trop tard sur le marché, ça n'a pas de sens. Donc, il se rabat sur son premier projet, donc de protéines recombinées. Le souci, c'est que, est-ce que c'était pour gagner du temps ou c'est parce qu'il avait perdu les compétences en interne, il décide de prendre un réactif pour la phase de dosage du vaccin à l'extérieur. Le problème, c'est que ce réactif s'est avéré défectueux. Il ne donnait pas du tout ce qu'on cherchait. Donc, au final, ils ont perdu 6 mois. Le problème, c'est que ces 6 mois se sont transformés en beaucoup plus longtemps parce que quand s'est agi de réaliser les essais cliniques de fin de phase 3, là, la pandémie avait si bien progressé qu'il devenait difficile de trouver les recrues au profil requis, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais été exposés au virus ou des gens pas encore vaccinés.
Et difficile hein, dans ces conditions de mener à bien des essais cliniques, c'est ce qui s'appelle jouer de malchance. Sanofi arrive en retard, alors pas encore après la bataille, mais pas loin, façon carabinier d'Offenbach.
Sonne les carabiniers !
Ça m'amène quand même à une question. Le vaccin Sanofi est prêt, mais Florence, quel est l'intérêt de venir aujourd'hui sur ce marché du vaccin anti-Covid ?
Alors, le vaccin est prêt, mais il doit encore être validé par les autorités de santé. Donc, ça va prendre encore sans doute 3 mois. Là. Il vient d'être déposé. L'idée, c'était quand même pour une question d'image. Il fallait que Sanofi aille jusqu'au bout. Mais évidemment, ce n'est pas un intérêt financier parce que voilà que maintenant, quand son vaccin arrive, la pandémie change de statut. C'est plus vraiment une pandémie, c'est considéré par l'OMS comme endémique. Donc, ce n'est plus dans une phase où il va falloir faire des rappels. Bon, Sanofi avait quand même anticipé un peu cette évolution puisqu'il a fait des études ciblées sur l'aspect rappel. Et il est très content parce que son vaccin, normalement, peut servir de rappel à tous les vaccins aujourd'hui présents sur le marché, que ce soit ARN messager ou autre. Le souci, c'est que c'est un vaccin qui demande d'être mélangé. Il n'est pas prêt dans la seringue. Donc, il y a des gens qui vraiment un peu s'étonnent de cet aspect-là. Enfin, en tout état de cause, Sanofi va bien sûr livrer, conformément à ses engagements, les commandes qui avaient été faites par les États-Unis comme l'Union européenne.
Finalement, les crises, vous l'aurez observé, ont ceci de structurant qu'elles sont à la fois des puissants révélateurs de nos faiblesses, mais aussi des accélérateurs de progrès.
Le 7 mars, Sanofi a reçu la visite de Jean Castex et de 4 de ses ministres à Neuville-sur-Saône pour enfin une bonne nouvelle, la pose de la première pierre de la nouvelle usine de vaccins de Sanofi. En quoi cette annonce est-elle aussi importante pour le groupe français ?
En fait, c'était la première pierre d'une usine polyvalente donc qui permettra de faire sous le même toit différents types de vaccins, y compris l'ARN messager. Mais surtout, c'était l'occasion pour Paul Hudson et Jean Castex de lancer une filière ARN messager dont Sanofi est évidemment une pierre angulaire, mais pas que. L'idée, c'est que de mobiliser aussi l'écosystème lyonnais qui est considéré un peu comme le berceau industriel des vaccins en France. Et la répartition des 2 milliards, près de 2 milliards qui sont annoncés par Sanofi, c'est une partie ira sur Neuville-sur-Saône pour les lots cliniques, une partie sur Marcy-l'Étoile, son plus gros site, pour la partie plutôt analytique et développement en amont, et puis une partie pour Val-de-Reuil, dans l'Eure, qui est chargée de la distribution des vaccins dans le monde entier.
C'est un investissement conséquent, 400 millions d'euros par an sur 5 ans sur les 3 sites français, mais aussi sur d'autres sites à l'étranger. Plus de la moitié sera donc pour les 3 sites français dont vous venez de parler, Florence. On comprend pourquoi le gouvernement était venu en force à Neuville-sur-Saône à un moment où il insiste sur la nécessaire souveraineté en matière de médicaments.
Cet investissement, il témoigne aussi des ambitions de Sanofi dans la technologie de l'ARN messager.
Tout à fait. D'ici 2030, normalement, 6 des 6 candidats vaccins du groupe seront basés sur cette technologie, d'après la feuille de route représentée par Paul Hudson en décembre dernier aux investisseurs et aux analystes. Et du coup, l'été dernier, il a aussi racheté 100% de Translate Bio pour 3,2 milliards de dollars. Donc, on peut dire qu'il met... quand même les fonds.
Et Paul Hudson, le président de Sanofi, qui veut devenir le numéro 1 dans l'ARN messager, il part d'un peu plus loin, mais c'est le fer de lance de sa relance dans les vaccins, où le groupe occupe la place de numéro 2 mondial, et il faut le rappeler, vous racontez dans les Échos Week-end que cela passera aussi par un tri dans les recherches. Dans quel domaine le groupe va-t-il insister ?
Alors, effectivement, il ne peut pas courir tous les lièvres. Donc, il a abandonné carrément près de 50% des projets de son portefeuille de recherche précédent, notamment une nouvelle version contre la coqueluche et un vaccin contre la maladie de Lyme où un labo comme Valneva est beaucoup plus avancé. Parce que son idée, c'est d'être soit le premier, soit le meilleur dans les maladies visées. Il va donc tester d'abord le potentiel de l'ARN messager dans la grippe. Ça, c'est sa vache à lait. Ça représente près de 40% de son chiffre d'affaires dans les vaccins. Et il y a une part de marché prédominante. Mais c'est d'autant plus vital pour lui que Pfizer et Moderna s'y intéressent également à ce marché, un marché de la grippe qu'il doit doubler d'ici la fin de la décennie à 15 milliards de dollars. Il y a aussi d'autres maladies qu'il vise avec l'ARN messager. Par exemple, le virus syncytial, qui est à l'origine de bronchiolite, qui amène bien des nourrissons et des personnes âgées chaque année à l'hôpital avec des avec la bronchiolite. Donc, et puis il a aussi se lance dans un tout autre domaine, l'acné, qui est à l'origine causée par des bactéries et qui était une piste poursuivie par une biotech autrichienne qui s'appelle Origimi, qui l'a achetée en décembre dernier. Mais l'ARN messager, en fait, ce sera sans doute une corde supplémentaire dans une panoplie de technologies dont Sanofi s'enorgueillit de disposer d'un des éventails les plus larges.
Équaton est une lotion spécialement conçue qui nettoie et purifie votre peau et fait disparaître tous les points noirs. Et là, vous me dites, il reste un cratère. Bon, d'accord. Mais je vous rappelle pour mémoire qu'il y a des enfants qui meurent dans le monde. Que tous les jours, des hommes et des femmes se battent contre la vermine communiste afin de faire régner la liberté, l'égalité, la fraternité. Et vous, petits occidentaux, bourgeoisés, aveuglés par votre ego, nous faites chier une pendule pour 3 boutons de merde.
L'acné, maladie de la jeunesse qui peut laisser des traces, n'en déplaise à Bruno Carette, des nuls dans cette fausse pub mémorable. L'ARN messager, c'est une technologie prometteuse, on en a parlé récemment dans la story, mais ces produits sont encore perfectibles.
Tout à fait, parce que pour cette première génération d'ARN messager, compte tenu de l'urgence, on a accepté des contraintes de fabrication et de distribution qui étaient assez fortes et des effets secondaires non négligeables souvent. Mais ça, ce n'est pas des conditions acceptables pour des vaccins, pour des maladies aussi répandues que la grippe. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas besoin de le congeler pour le fabriquer ou de le transporter. Et puis surtout que les effets secondaires soient beaucoup plus minimes. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a des vaccins qui font très bien leur job dans des conditions très correctes.
Et ça, on devrait pouvoir améliorer justement la question des effets secondaires à l'avenir ?
Ben, ça, c'est évidemment ce que poursuivent tous ces laboratoires qui sont positionnés sur les ARN messagers. Y compris, bien sûr, Pfizer, Moderna et CureVac, aussi en Allemagne.
Pour l'avenir, Sanofi mise beaucoup sur le Dupixent dans le traitement de l'eczéma et de l'asthme sévère. Là, on est dans un médicament, on n'est pas dans les vaccins. Et le groupe n'entend pas d'ailleurs pour autant laisser les vaccins sur le bord de la route. On parlait d'une revanche, la revanche autant dans les vaccins traditionnels que sur les vaccins ARN messagers. Mais pour avoir sa revanche, ça va être quand même compliqué parce qu'on est sur un secteur qui est en train de devenir de plus en plus concurrentiel.
Alors, les vaccins, c'est vrai que c'est quand même un relais de croissance clairement identifié dès l'arrivée de Paul Hudson en 2019. Donc aujourd'hui, c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais dans moins de 10 ans, normalement, ce chiffre devrait doubler. En même temps, le marché du vaccin a été bousculé par la technologie de l'ARN messager qui l'a carrément fait doubler. Mais si le Covid ne s'inscrit pas dans la durée comme une pandémie, ce n'est pas forcément un effet durable. Et puis, il y a encore sans doute un certain temps avant de mettre au point des vaccins avec, comme on disait, des effets secondaires limités et qui soient compétitifs. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que Sanofi, avec Pfizer et puis Moderna, c'est celui qui mise le plus officiellement en termes d'investissement. GSK, lui, repose pour l'heure sur un partenariat avec CureVac, un autre pionnier allemand de l'ARN messager. Et MSD, lui, coopère avec Moderna, mais plutôt sur l'aspect vaccin thérapeutique contre le cancer, donc c'est sans doute encore plus lointain. Mais Paul Hudson, il doit encore convaincre la bourse, parce que les investisseurs, ils restent assez circonspects, même s'il atteint plusieurs objectifs de son plan stratégique sur 6 ans, play to win, en termes d'économie et de génération de cash flow. Même côté rentabilité, ça va beaucoup mieux, mais il y a une défiance très permanente de la part des investisseurs par rapport à Sanofi, qui considère que le laboratoire il est sur la pente d'un déclin inéluctable, malgré la douzaine de milliards d'euros déjà investis dans des acquisitions et des accords de licence. Par rapport à ses concurrents, les analystes de Crédit Suisse calculent que le marché ne valorise que 70% de son portefeuille de médicaments actuels et futurs, soit un tiers de moins que les autres laboratoires pharmaceutiques européens. Donc, il a encore du pain sur la planche, mais bon, c'est à Sanofi de jouer.
Les vaccins vont donc rester l'un des moteurs de la croissance de Sanofi dans le monde. Et la crise du Covid-19 a rappelé le poids de la vaccination pour l'industrie pharmaceutique, alors que la technologie de l'ARN messager apporte aussi un message d'espoir dans le traitement de certaines maladies et affections. Les vaccins, avenir de la médecine. Pour en parler, j'ai appelé Patrick Bichler. Il est responsable du secteur santé du cabinet de consultants Bain. Bonjour Patrick Bichler.
Bonjour Pierrick.
On peut dire que le Covid a bouleversé l'industrie du vaccin ?
Alors, il a surtout accéléré un certain nombre d'évolutions qui étaient déjà en train de se mettre en place. La première chose que le Covid a accéléré, c'est l'innovation. En particulier avec une plateforme dont on a énormément parlé, qui est l'ARN messager. Mais il y a d'autres plateformes technologiques qui sont développées pendant la pandémie. Et puis, ce virus a également accéléré le délai d'innovation, en particulier le délai réglementaire avec une plus grande agilité de la part du régulateur pour faire arriver les vaccins le plus rapidement possible sur le marché. Le deuxième gros bouleversement qu'on a pu voir avec la pandémie, c'est finalement la confirmation du leadership de l'un des leaders du vaccin qui était Pfizer, mais également l'entrée retentissante de Moderna. Donc on a deux nouveaux acteurs, si l'on peut dire, ou en tout cas un nouvel acteur et un acteur qui était déjà présent dans le monde du vaccin, qui ont connu un développement très impressionnant. Et puis le troisième bouleversement, c'est que le vaccin Covid, finalement, a pris un poids considérable dans l'arsenal vaccinal, mettant un peu de côté tout ce qui faisait habituellement le portefeuille de produits dans la vaccination, que ce soit la vaccination de l'enfant, du bébé ou de l'adulte.
Vous avez cité deux acteurs américains. Est-ce que cette crise a aussi montré les failles de l'Europe en matière de recherche ?
Non, elle n'a pas vraiment montré les failles de l'Europe parce que lorsque l'on regarde l'ensemble des laboratoires qui se sont mobilisés pour développer des vaccins, j'allais dire tous les acteurs traditionnels de la vaccination étaient présents. On a simplement eu deux acteurs qui ont finalement eu, est-ce qu'on peut dire, plus de chance, ou en tout cas qui ont abouti plus vite, qui se sont trouvés avec des produits commercialisés avant ceux des autres, et on n'avait pas besoin nécessairement d'avoir un arsenal de vaccins couvrant l'intégralité des acteurs du marché. Donc la France et l'Europe n'ont pas été dépositionnées, elles ont simplement eu un aboutissement de leur innovation qui est arrivé en second rang. Et donc sur cette première vague des traitements contre le Covid, c'est vrai qu'on a en tête les deux Américains, dont l'un d'ailleurs a un Français à sa tête, hein, il est utile de le rappeler, mais on a effectivement beaucoup parlé des succès américains et un peu moins des succès européens.
Alors vous suivez le secteur pharmaceutique depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez été surpris quand même par la vitesse à laquelle sont sortis les vaccins anti-Covid ?
La vitesse a effectivement été très remarquable, mais... Elle n'était pas en soi étonnante puisque parmi les acteurs qui ont sorti leur vaccin le plus rapidement, vous aviez ceux qui étaient détenteurs de cette technologie de l'ARN messager sur laquelle ils travaillaient déjà depuis quelques années. Donc on a découvert le grand public l'ARN messager au cours de cette pandémie, mais ça faisait au moins 6 ans ou 7 ans que cette technologie était en développement. À nouveau, ce qui a été très rapide, c'est la vitesse avec laquelle les autorités de santé ont accepté d'analyser, d'évaluer et donc d'enregistrer des nouveaux traitements. Et on comprend bien, étant donné l'urgence sanitaire, qu'un certain nombre de procédures ont été accélérées. On a même envisagé de mettre sur le marché des produits avant même qu'ils aient terminé totalement leurs essais cliniques, ce qui était quand même une nouveauté par rapport à d'autres enregistrements plus classiques. On a également eu un alignement des planètes en matière de collaboration entre les différents acteurs, aussi bien de l'industrie pharmaceutique, mais également du monde académique. Et donc, vous avez eu ce parfait alignement des planètes dans lesquelles les universités, les chercheurs, les laboratoires pharmaceutiques, le régulateur, le payeur aussi, donc les autorités telles que la Caisse d'assurance maladie, se mettent à travailler de concert et en allant tous le plus rapidement possible.
Ouais, c'est vrai qu'il faut le rappeler, hein, il y a eu pas mal de fonds publics aussi, notamment les États-Unis qui ont déversé très vite des millions d'euros là aussi pour trouver assez vite un vaccin contre le Covid-19. On a vu fleurir aussi des nouveaux noms comme BioNTech, Moderna ou CureVac, mais ces groupes peuvent encore difficilement se passer de la big tech, des grands groupes pharmaceutiques pour produire en masse.
On l'a vu dans la collaboration qui a pu exister d'ailleurs avec les grands noms de l'industrie pharmaceutique pour produire le vaccin et notamment pour finaliser sa production dans ce qu'on appelle le fill and finish, donc la mise du vaccin dans des seringues ou dans des flacons. Les grands acteurs de l'industrie ont été contributifs d'abord dans l'effort d'innovation parce que à nouveau beaucoup des développements auxquels on a pu assister sont quand même le fruit d'années de collaboration ou d'années de travail d'un certain nombre de laboratoires. Et parmi les nouveaux venus dont on parlait, hein, Moderna ou BioNTech, qui à nouveau ne sont pas si nouveaux que cela, puisque ça faisait quand même quelques années qu'ils travaillaient sur l'ARN messager en particulier, mais le support des grands noms du vaccin notamment, hein, tels que Glaxo, tels que Sanofi, tels que Pfizer, ont été indispensables.
C'est un marché qui devrait encore grossir, celui des vaccins, hein, j'entends, dans les prochaines années.
Alors, il y a quelques années, on pronostiquait que ce marché des vaccins, qui avant la pandémie, hein, si on le rappelle, pesait à peu près 46 milliards de dollars, donc que ce marché allait grossir de l'ordre de 10 à 11 % par an pour tangenter avec les 100 milliards de dollars de valeur à l'horizon 2027. Ça, c'était les prévisions d'avant la pandémie. Ce chiffre de 100 milliards, il a été atteint avec la pandémie, mais effectivement, il devrait se stabiliser et représenter à peu près cette valeur-ci dans les prochaines années parce que progressivement, le vaccin Covid va être remplacé par un certain nombre d'autres vaccins qui sont en développement ou qui sont déjà sur le marché dans un certain nombre de pathologies, aussi bien de l'adulte que de l'enfant.
Merci Patrick Bichler, spécialiste du secteur pharmaceutique chez Bain. Et merci à Florence Beauchard, journaliste aux Échos Weekend. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, Castbox ou encore Deezer. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.